Aujourd'hui, la masterclass de Catherine Millet avec Julie Gacon.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Alors là, j'entends déjà ceux qui pensent que d'emblée je me trompe et que déjà je prononce mal votre nom. Mais vous me confirmez qu'on dit bien Catherine Millet?
Oui, enfin on le dit, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Ma réponse à cette question, c'est toujours de dire que mon père disait Millet et qu'il faisait même des plaisanteries sur ce nom-là quand j'étais enfant, et des plaisanteries que je trouvais un peu bêtes. Bon, mais voilà, du coup...
Il disait que vous étiez Mibeau Millet.
Voilà, c'est ça, voilà. On était Mibeau Millet. D'ailleurs, je trouve que c'est vrai, c'est assez vrai. Donc, ça me va bien quand même. Mais maintenant, si on m'appelle Catherine Millet, je réponds quand même. Donc,
voilà. Merci en tout cas à vous, Catherine Millet, d'être avec nous, ainsi qu'au public venu assister à cette masterclass à la BNF à Paris, qui est l'un des partenaires de France Culture dans cette entreprise de collection de masterclass. C'est ici que sont reçus les écrivains et écrivaines pour des leçons ou des sessions littéraires. Alors, puisque l'Académie française laisse la liberté de choisir, vous préférez vous désigner comme écrivain?
Oui. D'abord parce que ça sonne mieux à mon oreille que écrivaine, par exemple. Bon, alors et bien sûr, il y a l'usage, et peut-être qu'un jour les oreilles se seront habituées à entendre écrivaine. Maintenant, je trouve que si quelqu'un parle de moi à côté de moi et emploie le mot écrivaine, je trouve que ce serait une perte de temps que de le reprendre et lui dire, vous savez, je milite pour être moi une femme, un écrivain. Bon, donc ça serait aussi un peu ridicule de reprendre les gens. Et puis on verra bien si l'usage au bout du compte dans des années ce sera imposé. Moi, je pense que c'est la pratique de la langue qui finalement impose ou pas certains mots. C'est pas une décision arbitraire.
Alors ne perdons pas de temps, on va mettre tout le monde d'accord en disant que vous êtes d'abord critique d'art, vous fondez avec Daniel Templon et d'autres la revue Art Press en 72, vous en dirigez toujours la rédaction, votre premier livre paraît aussi en 72, c'est un recueil de textes, d'articles, de préfaces, suivons votre monographie sur Yves Klein, l'art contemporain en France chez Flammarion entre autres, et en 2001 vous vous lancez dans l'autobiographie, l'autofiction, La vie sexuelle de Catherine M, document inédit sur la nature humaine, récit très cru, sur un ton très neutre et qui n'a rien d'un roman, même si vous n'en excluez pas la part fantasmatique. Suivront d'autres récits et d'autres ouvrages sur l'art, les uns annonçant ou nourrissant les autres. Nous aurons le temps d'en reparler. Après tout, c'est vous que nous voulons entendre. Et d'abord, sur la façon peut-être dont votre imaginaire, vos fictions intimes se sont développées quand vous étiez petite, vous qui avez l'habitude de dire et qui êtes convaincue que notre espace intérieur se forge en fonction de notre espace extérieur.
Je pense que si j'avais pas été critique d'art, j'aurais été critique d'architecture, en fait, parce que je suis extrêmement sensible aux espaces, et même quand je suis face à un tableau, qu'il soit abstrait ou figuratif, c'est d'abord l'espace qui me séduit ou pas, qui me touche. Donc c'est vrai que je suis très très sensible aux espaces étroits ou larges. Alors si vous me posez la question des espaces dans lesquels j'ai grandi, j'ai grandi dans une banlieue qui était une banlieue petite bourgeoise et qui m'a offert dans un premier temps des espaces assez étroits. À la fois l'appartement était un petit appartement où on vivait à cinq. La rue qu'on habitait était une rue pas spécialement étroite, mais bordée uniquement d'immeubles très très hauts, donc ça rétrécissait aussi l'espace. Mais néanmoins, j'ai eu cette chance que mes parents finalement déménagent dans un appartement qui était au dernier étage de cet immeuble, et associé à cet appartement, il y a des fenêtres pour moi, et des fenêtres qui donnaient très loin, dont la vue donnait très loin, puisque on était très haut. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que je raconte dans le livre sur l'enfance, c'est que j'avais pris l'habitude beaucoup de lire près de près d'une de ces fenêtres qui donnait sur les lointains. C'était des lointains pas tellement poétiques parce que c'était quand même une vision de la banlieue industrielle comme ça. Mais néanmoins, d'abord, il y avait une grande part de ciel dans cette vue. Et puis voilà, on voyait loin. Et en fait, ça m'est apparu à l'occasion de l'écriture de ce livre sur l'enfance, que finalement, c'était la place que j'avais choisie pour lire, pour m'installer avec un livre sur les genoux et lire accroupi comme ça près de cette fenêtre. Donc je pense que voilà, c'était c'est une banalité de dire ça, mais il y avait cette nécessité à travers le rapport au livre, à la lecture, de se projeter dans un espace qui était bien au-delà de la banlieue qui était mon environnement immédiat, quoi.
Voilà. Et vous expliquerez un peu plus tard que l'amour physique sera aussi une conquête de l'espace. Dans Une enfance de rêve, vous racontez que cette place devant la bibliothèque n'était pas une cachette, même si je m'y tenais, je vous cite, le plus souvent recroquevillée, mais elle était le lieu d'une intimité si parfaite, d'un ravissement si exclusif et intense qu'en me remémorant la sensation que j'y éprouvais, je lui trouve maintenant un caractère presque sexuel.
Oui, un peu masturbatoire. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était un plaisir, mais on pourrait le dire de tout acte de lecture, comme ça, en tout cas de lecture littéraire, que voilà, c'est un très grand plaisir solitaire. Donc il y a un petit caractère masturbatoire et puis pourquoi je pense à la masturbation? Parce que ça avait un caractère un peu secret. Alors, bon, j'avais la chance d'avoir cette bibliothèque à disposition. C'était celle que ma mère rangeait des livres. C'était ma mère qui était une lectrice. Ça passe toujours, presque toujours par les mères.
C'était la bibliothèque de votre mère, d'ailleurs.
C'était la bibliothèque de ma mère. Et bon, j'y avais un accès très libre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le nez dans des choses, très jeunes, qu'une éducation plus stricte m'aurait peut-être interdite.
Comme
et
quoi
je me souviens d'un roman, américain, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, le titre était Backstreet. Et Backstreet, ça avait été un grand best-seller. Et qui racontait, en fait, Backstreet, c'était l'histoire d'une femme qui, toute sa vie, n'avait été que la maîtresse d'un homme en vue, marié, et qui ne pouvait pas divorcer, abandonner sa famille pour l'épouser. Et cette femme terminait dans la misère le jour où cet homme ne pouvait plus l'entretenir. Donc c'était une histoire d'adultère. Et moi, j'ai lu ça très, très jeune. J'ai plus, là, momentanément, le souvenir exact de l'âge auquel j'ai lu ce livre, mais bon, c'était pas spécialement une lecture pour enfants. Il n'y avait pas de scène érotique ou quoi que ce soit, hein, mais c'était quand même une histoire d'adultère. Et comme j'ai vécu mon enfance en observant mes parents, qui avaient aussi, des difficultés à vivre ensemble et qui donc trouvaient comme solution d'aller chercher l'amour ailleurs, l'adultère, ça, comme on dit des fois, ça m'a parlé.
Est-ce que vous lisiez de façon compulsive ou est-ce que vous preniez le temps de lire un livre de bout en bout?
Non, pas forcément. Je pense que... Alors... compulsive non plus, c'est peut-être exagéré. J'étais pressée, quoi. J'étais pressée. J'avais envie d'en lire le plus possible et ne sachant pas toujours comment me décider, je lisais un petit bout là, avant de pouvoir rentrer vraiment dans un livre, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Je suis quelqu'un de, au contraire, de très presque organisé dans mes lectures. Il y a des choses que je peux lire, mais je crois que ça, c'est partagé par beaucoup de gens, des choses qu'on peut lire à certaines heures, qu'on peut pas lire à d'autres heures, etc. Il y a une sorte de fragmentation du temps qui se fait par la nature même des lectures qu'on mène.
Parmi les lectures qui vous marquent, j'ai relevé notamment que vous êtes au départ une grande lectrice de Lamartine. Et ça m'a amusée notamment parce que les générations suivantes ont critiqué son lyrisme un peu vieillot. Et c'est Flaubert notamment qui disait au sujet de Graziella, bon, il la baise ou il la baise pas. Voilà, l'union sexuelle est reléguée systématiquement chez Lamartine dans l'ombre comme
Mais
boire, manger, pisser.
Vous savez, Graziella, c'est aussi un livre qui a d'ailleurs... beaucoup la littérature romantique, c'est une littérature qui est autobiographique quand même. Bon. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'étais capable de percevoir et qui, en dehors même de cette histoire d'amour, de la séduction que pouvaient exercer les personnages, etc., le besoin que je pouvais avoir enfant de m'identifier, d'ailleurs presque plus au narrateur qu'à la jeune femme dont il est amoureux. Voilà, je crois que j'ai toujours eu du goût pour ce qui ressemblait déjà un peu à une autobiographie ou à, par exemple, j'adorais les récits de voyage parce que les récits de voyage c'est quand même la personne qui dit vraiment, qui raconte vraiment son expérience. Il y a pas de tricherie quoi. C'est pas une histoire fabriquée de toutes pièces. Un récit de voyage, on raconte son expérience.
Chateaubriand aussi,
oui,
fait
décidément,
partie de vos lectures.
Oui, mais bon,
lui plus grand masturbateur devant l'Éternel.
oui. Déjà, ma première réponse, c'est de dire que ce qui me fascinait chez Chateaubriand, c'était la construction des phrases. C'était le fait qu'on naviguait quoi sur ces phrases comme sur une houle quoi. On est balancé, on se laisse porter à la limite, on fait même plus attention à ce qu'on est en train de lire, on se laisse simplement balancer comme ça par les phrases. Et donc récemment j'avais cette conversation, je me posais la question, enfin avec Jacques-Henri d'ailleurs, je peux le dire, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui faisait qu'on maîtrisait la langue ou pas, qu'on écrivait bien ou pas. Et on se posait la question à propos d'exemples qu'on avait autour de nous, de gens qui étaient de très grands lecteurs, très très grands lecteurs, et qui néanmoins n'avaient pas une très bonne maîtrise de la langue. Qu'est-ce qui fait que finalement, ces lectures que vous faites, vous les intériorisez suffisamment pour que... instinctivement, vous cherchiez à reproduire quelque chose de la qualité, comme ça, de la langue, et que vous la sentiez spontanément. Parce que finalement, si vous cherchez à bien écrire, c'est forcément raté. Sa langue, on l'a en soi, elle doit venir comme ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de travail, au contraire. Mais enfin, c'est un rythme interne qu'on a. Alors, comment se l'est-on fabriqué? Et comment se fait-il que des gens qui ont peut-être même lu beaucoup plus que moi je n'ai lu et qui ont lu peut-être des auteurs que je n'ai pas lus et qui sont exemplaires de la beauté du style, comment se fait-il que néanmoins ils n'aient pas été façonnés, voilà, que leur langue n'ait pas été façonnée par ces lectures? J'ai pas de réponse, hein, mais je trouve que c'est une question à poser et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense vraiment qu'on ne fabrique pas sa langue. Fabriquer, il faut m'entendre, fabriquer de manière artificielle, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui s'assirait devant son ordinateur et commence un récit et dit « Ah, voilà, comment je peux faire pour accrocher, séduire le lecteur, etc. » Si vous commencez à vous poser ce genre de questions, ça va pas. L'écriture, c'est pas de la fabrication, c'est du travail. C'est du travail laborieux, mais c'est pas de la fabrication. Voilà, et je pense que pour l'art, c'est la même chose. Pour la peinture, on sent tout de suite. D'ailleurs, c'est presque un terme qu'on peut utiliser comme jugement de valeur. On dit d'une œuvre d'art qu'elle est fabriquée, ouais, où on sent vraiment l'effort de l'auteur pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose qui ressemble à son idée de l'art, pour faire quelque chose qui va séduire le public, etc.
Alors, Catherine Millet, est-ce que c'est votre appétit pour la lecture et la découverte, et notamment la lecture de grands classiques ou de grands écrivains classiques qui commence à vous titiller, vous donne l'envie d'écrire? Vous avez quel âge et qu'est-ce que vous commencez par jeter sur des papiers, sur des carnets ou que sais-je?
Des petits bouts de romans. Alors déjà, je ne sais pas, il y a deux choses dans votre question. Et en fait, je relisais tout à l'heure, avant de venir, je relisais le manet de bataille. Et je suis tombée sur une phrase que je n'avais pas déjà soulignée, où Bataille dit à propos de Manet, dont on sait que Manet, à la fois cet inventeur, cet innovateur extraordinaire dans la peinture, mais qui a souffert toute sa vie de ne pas être reconnu, qui a beaucoup souffert justement des moqueries qu'il a dû essuyer. À propos donc de cette personnalité, Bataille dit... Un créateur, un écrivain ou un artiste, c'est quelqu'un qui est soumis à l'hégémonie du moi, mais qui en même temps a besoin d'être reconnu. Voilà, il y a ce besoin de reconnaissance. Je suis tout plein de moi-même et en même temps, je demande à ce que les autres me reconnaissent. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'il n'y a pas de désir absolument pur, vous voyez, d'écrire. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, mais de même qu'il, de mon point de vue, il n'y a pas non plus sans doute de désir complètement pur de réaliser une œuvre d'art qui soit très belle, magnifique, etc. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi le besoin que les autres vous intègrent, en quelque sorte. Vous êtes là dans votre moi, dans ce moi énorme, et vous avez besoin en même temps que les autres vous acceptent. Il y a ce besoin de reconnaissance. Et les autres, ça veut dire aussi se sortir de soi-même. C'est assez intéressant comme cheminement que ça vous fait suivre. Bon. Et donc, tout ça pour finalement répondre à votre question, c'est que ce désir d'écrire, c'est pas simplement né du désir d'imiter ces auteurs que j'admirais tellement, c'est aussi parce que j'avais vu, ça je le raconte, j'avais vu à la télévision Françoise Sagan et je me disais, waouh, elle a une vie drôlement intéressante, cette femme, elle connaît des gens marrants, elle a sa photo dans Paris Match, et j'avais envie de ça aussi, voilà. Bon, donc il y a ce mélange et je crois qu'il faut l'admettre. Bon, alors, deuxième... partie de votre question, ce que j'ai commencé à écrire dans des cahiers, c'était des petits débuts de romans comme ça, des histoires qui, si je me souviens bien, reflétaient quand même plus ou moins le sentiment que j'avais à ce moment-là, si on peut dire les choses comme ça pour quelqu'un qui devait être une préadolescente, disons que peut-être que les premiers cahiers gribouillés, j'avais 11-12 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça, son sentiment de la vie, si je puis dire les choses comme ça. Hein. Je pense à dire ça aussi parce que je suis un peu plongée là-dedans, puisque j'ai commencé un nouveau livre autobiographique. Il y a une période comme ça, quand j'avais 18 ans, où j'ai écrit des poèmes. Et je pense qu'à ce moment-là, je subissais l'influence de, disons, j'ai réalisé des premiers intellectuels que j'ai rencontrés. Certains, d'ailleurs, sont connus aujourd'hui, ont fait des carrières dans le monde de l'art, d'ailleurs, comme moi, qui avaient fréquenté, pas le même lycée que moi, mais le lycée voisin dans la même banlieue, que j'ai rencontré, qui faisait une revue de poésie qui s'est appelée Strophe, voilà. Et parmi ces gens, il y avait Jean Frémont qui publie des livres, qui écrit de la poésie, qui écrit des récits, qui est directeur aujourd'hui de la Galerie Le Long. Il y avait Daniel Abadi qui a été un conservateur de musée, d'abord au Centre Pompidou, puis à la Galerie du Jeu de Paume. Il y avait aussi, il écrivait pas, mais il s'occupait de la partie commerciale de l'affaire. Il y avait Daniel Templon, qui a une galerie, et avec qui j'ai vécu plusieurs années. Donc, à ce moment-là, je pense que je me suis mise à écrire des poèmes, parce qu'il faisait cette revue qui s'appelait Strophe. Et en mettant le nez dedans ces temps-ci, je me suis dit, oh là là ce que je me suis mise à écrire à ce moment-là, ça ressemblait beaucoup à ces poèmes qu'ils publiaient dans leur petite revue.
Et pour parler donc de ce que la vie vous fait, Catherine Millet, je voulais que vous nous racontiez un épisode qui m'a paru en lisant Une enfance de rêve, important dans ce qui n'était pas encore un projet littéraire à proprement parler, mais une sensation très forte que vous avez ressentie. Vous étiez jeune adulte, un jour où avec vos parents, vous allez chez des cousins ou des amis de vos parents, il fait très très chaud. vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, vous allez aux toilettes. Et je ne sais pas, cette scène que vous racontez dans le détail dans Une enfance de rêve me paraît un début de projet littéraire.
Oui, bah, en fait, oui, j'ai... là aussi, bon, je vais vous embêter parce que je vais faire une réponse longue encore. Pendant longtemps, avant de m'y mettre vraiment, j'avais cette idée qu'il fallait écrire pour dire des choses qui n'avaient pas encore été écrites. Voilà. Et cette histoire de douleur dans le ventre, j'ai été une petite fille qui a beaucoup souffert comme ça pendant la période des règles. C'était si terrible que oui, en effet, cette pensée m'était venue d'abord parce que je raconte aussi le rapport que ça crée à la douleur, parce que c'est quelque chose que j'ai connu, Dieu merci, jamais de manière très très grave, mais ce rapport à la douleur, je le connais bien, et une des manières de s'en protéger, c'est de se concentrer finalement sur cette douleur. Enfin, je sais pas si des psychologues confirmeraient que c'est une bonne technique, mais moi c'était la technique que j'avais trouvée. Donc là, isolée dans les toilettes, je me concentrais sur cette douleur. Et voilà. Et oui, cette pensée m'est venue que si un jour je me mettais à écrire, ça serait pour raconter des choses comme ça. Franchement, bah j'ai fini par la raconter quand même. Bon, pas tout de suite, pas dans le premier livre, mais enfin bon, j'ai fini par la raconter. Et ce à quoi je suis en train de penser aussi, c'est pour ça que je vous avais prévenu que je ferais une réponse longue, c'est que je parle d'une fenêtre dans ces toilettes. Il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et l'extérieur, c'est pas n'importe quoi, c'est une rivière qui passe, la maison est au bord de cette rivière, et il y a aussi cette échappée, comme ça, vers l'extérieur. Et c'est quelque chose qui s'est inscrit comme ça aussi dans ma mémoire, le regard qui s'échappe vers l'extérieur, associé à cette idée de raconter ce que j'étais en train de ressentir.
Alors que je me trouvais dans cette posture, une pensée traversait ma cervelle. Il fallait pouvoir parler de cela, d'écrire comme ça n'avait jamais été fait, pensais-je, ces états d'intimité misérable où, ramassés comme une limace agressée par un bâton, nous en sommes réduits à n'être qu'un animal, une boule de sensations. J'extrapolais, il fallait montrer ces situations où l'être humain se trouve démuni, à l'extrême de la faiblesse ou de la souffrance, parce que c'était là la réalité toujours cachée. Est-ce qu'à l'époque, vous d'ores et déjà projetez que raconter ça peut être de l'ordre de l'impudeur ou d'une honnêteté totale, vous qui aviez l'habitude, dites-vous, de vous sentir observé par Dieu, car vous étiez très croyante?
Ne me mettez pas dans l'embarras. Non, mais alors... Mais en fait, non, vous savez, c'est vrai que j'ai eu cette pensée, c'est pas une chose reconstruite après coup. Je pense que j'étais quand même suffisamment âgée pour que le souvenir soit fiable. Bon, maintenant, c'était des pensées très labiles, je le dis, je crois. Donc ça me traversait la tête, puis 10 minutes après, je pensais à autre chose. On peut pas dire qu'à cet âge-là, j'avais un projet littéraire. Vous voyez, je me suis pas dit, à tel âge, je me déciderai, je commencerai à écrire et je raconterai des histoires comme ça. Non, je pense que vraiment, j'ai pas du tout eu cette pensée. Et même, c'est le genre de souvenir qu'on oublie. Et puis qui vous reviennent quand vous êtes au travail, en fait, quand vous avez commencé à écrire, à dans l'écriture évoquer cette période, et tout d'un coup, oui, cette chose-là revient, et tout d'un coup, ça prend un sens par rapport à ce que vous avez fait par la suite, et notamment évidemment par rapport à la vie sexuelle. Donc, mais c'était pas plus que ça. Mais c'est souvent une pensée que j'ai eue aussi beaucoup plus tard, parce que tout à l'heure, j'évoquais des douleurs comme ça dont j'ai pu souffrir. Il se trouve que depuis l'âge de cette anecdote, je souffre de maux de tête. Je pourrais écrire des livres sur la manière de soigner ces maux de tête. J'aurais beaucoup de succès, je pense aussi. Et en fait, les migraineux ou ceux qui sont sujets à des maux de tête, comme ça, d'une façon générale, vont savoir s'il y en a dans cette salle, savoir de quoi je parle quand je parle de douleurs qui vous paralysent complètement et qui peuvent vous paralyser pendant des heures et des heures. Bon. Donc là, on est dans une souffrance terrible. Et très souvent, lorsque j'étais plongée dans cette souffrance, là aussi, c'est vrai que c'était une pensée qui me venait. Il faudrait que je puisse raconter ça, le montrer, en fait, trouver les mots pour mettre en image cette douleur. Voilà.
Alors, vous ne commencez pas par là. Après le bac, vous vous lancez dans la critique d'art. Vous savez que vous savez écrire. Vous commencez à proposer des critiques aux lettres françaises. Aragon en était le directeur encore à l'époque. Oui. On est en 68. En 72, je raccourcis un petit peu, j'essaye de résumer.
Oui,
mais
oui,
en 72,
pardon.
Mais pas du tout. En 72, je résume ce qui s'est passé après votre bac. En 72, vous fondez avec donc Daniel Templon la revue Art Press. C'est le premier numéro qui paraît. D'emblée, vous affichez un ton qui sera celui d'Art Press, un mélange entre peinture abstraite et américaine et art conceptuel et minimaliste, avec un ton aussi qui est le vôtre, qui n'est pas le ton assez lyrique des lettres françaises. Est-ce que la critique d'art, c'est de la littérature ?
Oh, non, je pense pas. Enfin, oui, en même temps, le manet de bataille que j'évoquais, c'est quand même de la littérature. C'est parce qu'il y a, qu'est-ce qui caractérise la littérature dans ce cas-là? Je dirais que c'est la liberté. C'est que l'extrême liberté avec laquelle Bataille appréhende l'œuvre de Manet fait que on est un peu au-delà de l'histoire de l'art ou de la critique d'art. Évidemment, il y a aussi la subjectivité de Bataille qui intervient et qui fait que son interprétation de Manet est très très nouvelle, très très neuve. Enfin, pour les gens de ma génération, ça a été un livre très très important parce qu'il nous a fait comprendre beaucoup de choses de la modernité. Bon, alors oui, là je pense que c'est de la littérature. Maintenant, quand moi j'ai commencé, et même encore aujourd'hui, quand je dois rendre compte d'une exposition, je prétends pas, j'essaye de bien écrire. Bon, mais je dirais pas que c'est de la littérature parce que je ne m'autorise pas la même liberté que je m'autorise lorsque j'écris ces récits autobiographiques. Alors, il y a des fois un mélange des genres parce que j'ai quand même publié deux gros essais sur des personnalités, un peintre, Salvador Dali, et puis plus récemment un écrivain qui est D.H. Lawrence. Dans les deux cas, je dois dire que j'ai essayé de faire mon travail critique le mieux possible, c'est-à-dire que je pense véritablement que j'ai éclairé ces œuvres. En même temps, c'est des livres que j'ai pensé. En fait, mon idée, c'était la possibilité que je pouvais avoir d'approcher une œuvre à travers une sorte de partage que j'avais avec l'auteur de cette œuvre qui me permettait de peut-être comprendre, approcher quelque chose de sa subjectivité. En tout cas, c'était le projet avec le Dali. Il me semblait que, alors, je m'excuse, je vais passer pour très prétentieuse, mais je pense que je partage un certain nombre de fantasmes ou d'obsessions avec Salvador Dali. Bon, et que je pouvais en quelque sorte les comprendre de l'intérieur et que ça m'autorisait une certaine démarche critique, voyez. Bon, alors forcément, quand vous vous mettez dans cette position, forcément il y a des parties du livre qui sont entre guillemets plus littéraires que d'autres qui sont plus strictement critiques, et c'est surtout vrai pour le Dali plus que pour le livre sur Lawrence. Mais enfin bon, voilà.
Vous n'avez jamais cherché à théoriser d'ailleurs sur l'art contemporain, et votre façon d'écrire est assez particulière. Enfin, vous expliquez que pour raconter une œuvre d'art, pour écrire sur une œuvre d'art, il faut se mettre dans certaines dispositions, et notamment un état qui serait proche de l'association libre. En tout cas, vous laissez une grande part de subjectivité dans votre manière de parler de l'art.
Moi, je pense plutôt, alors là, c'est pas trop l'association libre que, alors, l'écoute flottante du psychanalyste, je dirais. Mais je suis pas la seule à penser ça. Un jour, J'ai lu que mon confrère Jean Clair avait la même définition, plus ou moins, de l'approche critique. Je crois que non, c'est au contraire que vous vous mettez dans un, par rapport à l'œuvre d'un autre, vous vous mettez dans un état de disponibilité le plus grand possible, le plus large possible, et que au contraire, vous avez intérêt à laisser de côté, vos a priori, vos idées toutes faites déjà sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ou pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, je pense que j'avais vraiment des schémas. D'abord parce que j'ai commencé à travailler dans une époque qui était au contraire très dominée par la théorie. Alors moi qui étais autodidacte, je trouvais ça formidable. Je me disais waouh, ces gens-là, ils en connaissent des trucs, ils sont capables de construire des interprétations d'une manière très savante. Bon, et puis je crois que j'ai pris un peu d'indépendance par rapport à ça, et ça m'a permis, je pense, que cette attitude-là que j'ai décrite d'écoute flottante, ça m'a permis de sortir des cadres que je m'étais donné au début, et de m'intéresser à des œuvres auxquelles je ne me serais pas intéressée si j'étais restée avec cet état d'esprit, comme ça, très, très soumis à la théorie. Et c'est très amusant parce que vous avez évoqué, c'est vrai, j'ai fait un tout petit premier livre en 72 qui était un recueil de textes sur l'art conceptuel. Et à l'époque, j'étais essentiellement nourrie de ça, de peinture américaine. On venait de découvrir la peinture américaine en France. L'abstraction, c'était formidable. Moi, j'étais vraiment prise là-dedans. Et si je m'écoute vraiment, c'est vraiment mon goût. Voilà, ce que j'aime vraiment, c'est être devant un grand tableau de Barnett Newman ou un tableau noir de Ad Reinhardt. Et là, vraiment, comme on dit, je prends mon pied. Ça, c'est vraiment mon goût. Ceci dit, récemment, j'étais invitée dans un musée en Allemagne pour faire une conférence sur Georg Immendorff. Immendorff est un peintre allemand qui est décédé aujourd'hui, mais qui a fait plus ou moins partie de ce nouvel néo-expressionnisme qui était apparu dans les années 80. Et donc, c'est une peinture tout à fait étrangère à cette esthétique abstraite que je viens d'évoquer. Et alors, en retravaillant une nouvelle fois sur Immendorff, je me suis rendu compte... J'étais invitée pour faire une conférence sur lui et je me suis rendu compte que c'était peut-être le peintre sur lequel j'avais le plus écrit. À l'inverse de ce qui était mes goûts finalement. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui m'a néanmoins passionnée et qui continue de me passionner puisque je suis encore capable de faire une conférence après avoir écrit déjà plusieurs textes sur cette œuvre. Donc en fait, voilà pour un peu, je sais pas si je réponds à votre question, mais enfin pour essayer de caractériser cette démarche critique, je dirais voilà, il faut être aussi attentif à ce qui a priori ne vous plaît pas. Mais ça, j'ai des amis collectionneurs qui disent ça. Ils disent qu'ils rentrent dans une galerie, si le truc leur déplaît, ils disent c'est peut-être ça qu'il faut que j'achète. Donc en fait, il y a une œuvre d'art, elle est faite pour justement un peu vous provoquer, vous déstabiliser. Si elle vous déstabilise pas, si elle est là simplement pour vous rassurer, c'est pas intéressant.
Et d'ailleurs, votre façon d'en parler, de les décrire, passe par vos perceptions, passe par le « je ». Vous racontez la façon dont cette œuvre pénètre votre regard, si besoin d'autres facultés perceptives. Mais en tout cas, vous parlez de vous aussi.
Oui, mais là, je parle de moi comme étant le spectateur, le premier spectateur qui essaye d'en appeler d'autres à ses côtés pour partager sa vision, en fait. Le rôle du critique d'art, c'est ça, c'est de dire, écoutez, moi, je vois ça, je vous encourage à mieux regarder parce que vous allez peut-être voir les mêmes choses qui me paraissent intéressantes. C'est pas simplement là une question d'exprimer sa subjectivité et son propre plaisir devant une œuvre d'art. C'est d'essayer vraiment de... Il y a quand même aussi une volonté un petit peu didactique quand même dans la critique d'art.
En tout cas, certains ont vu dans l'utilisation du jeu de la première personne quelque chose d'annonciateur de votre aventure littéraire, parce que là, on est toujours dans les années 70-80. Vous donc publiez un premier livre en 72, texte sur l'art conceptuel. C'est une commande, vous écrivez beaucoup sur commande. Vous avez besoin d'être sollicité pour écrire, Catherine Millet. Il en va de même de votre monographie sur Yves Klein, paru en 82, de l'art contemporain en France en 87, de votre livre d'entretien avec Denise René en 89. Et de la vie sexuelle de Catherine M. aussi. C'est une commande.
Ah oui, oui. Oui, c'est une commande. Ah oui, je pense qu'un livre comme ça, ça pouvait être qu'une réponse à une commande, parce que franchement, s'asseoir devant son ordinateur un matin et puis se dire, tiens, je vais raconter ma vie sexuelle par le menu, il fallait vraiment qu'il y ait une attente quelque part pour me décider. Parce qu'en fait... c'est une chose dont j'ai parlé. C'était là aussi une pensée qui me traversait dans des moments comme ça, un peu intenses par rapport à des situations sexuelles. Je me disais aussi, il faudrait, comme lorsque j'étais allée aux toilettes enfant, il faudrait parler de ça, il faudrait le raconter, ça. Voilà. Bon. Mais entre la pensée plus ou moins éphémère comme ça, et puis le fait de passer après, je sais pas, 2 ans ou 2 ans et demi à décrire la chose, il y a quand même des étapes à franchir. Et je pense que l'attente de quelqu'un d'autre, donc une commande, ça aide à franchir ces étapes, quoi. On se rend pas compte d'ailleurs dans quoi on s'embarque. Moi, je me suis pas du tout rendu compte quand j'ai signé le contrat avec les éditions du Seuil, donc à l'initiative de Denis Roche qui dirigeait la collection Fiction et Compagnie qu'il avait créée d'ailleurs. Je pensais pas du tout, je savais pas dans quoi je m'embarquais. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de doutes au début. Je me disais, mais justement, est-ce que c'est ça que Denis attend? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Je ne savais pas trop.
Alors, qu'est-ce qui a guidé, sur le coup, votre choix d'adopter un ton très neutre, toujours très descriptif, et un style, en fait, beaucoup plus pornographique qu'érotique? C'est pas un livre érotique, La vie sexuelle de Catherine M.
Ouais, alors les avis sont partagés. Ah oui. Les avis sont partagés parce que je me souviens qu'après la sortie du livre, je rencontrais toutes sortes de lecteurs. Alors il y avait les lecteurs qui me faisaient le reproche de pas avoir justement écrit un livre érotique. Puis il y a ceux, au contraire, qui me disaient, oh là là, j'ai lu votre livre, ça m'a mis dans un état. Bon, donc en fait, je crois, là forcément, c'est chacun selon sa propre sensibilité. Bon, donc en fait, c'est pas une décision, c'est ça. Bon, voilà, j'avais signé ce contrat. Il fallait que j'écrive ce livre. J'avais envie de le faire. Je savais pas comment m'y prendre. Bon, parce que j'avais peut-être cette idée que c'était pas un livre comme les autres que j'avais déjà écrit. Est-ce que, un peu comme j'évoquais tout à l'heure ce genre d'attitude, est-ce que je me disais, il faut que je fasse un vrai livre ou un livre de littérature, vous voyez? Bon, il y avait peut-être ça. Bon. Et puis en fait, j'ai eu un très bon conseil. Il est venu de Jacques Henric, qui lui avait déjà publié pas mal de livres de fiction.
Votre mari,
qui est la personne avec qui je vis depuis longtemps maintenant. Et en fait, Jacques m'a dit, mais te prends pas la tête, tu écris comme t'as l'habitude d'écrire. Ah bon, ça a été la révélation. Je me suis dit, oui, il a raison. Bon. Et donc, en fait, en tant que critique d'art, j'ai déjà ce style, disons, un peu distancé. Vous savez, vous parliez du « je » dans les textes critiques. Le « je » dans mes textes critiques, il est venu après, surtout, l'écriture de la vie sexuelle. Au début, je le disais pas trop. Même des fois, on me faisait cette remarque. On me disait, mais alors, tu viens d'écrire 15 pages sur cet artiste pour une préface de catalogue, et tu dis, on sait même pas si tu aimes ça ou pas. Je dis non, parce que c'est pas que j'aime ça, c'est pas l'important. L'important, c'est d'éclairer l'œuvre, d'aider le regardeur à mieux l'apprécier, mais c'est pas à dire que moi je l'aime. Donc en fait, j'ai spontanément, je crois sur le conseil de Jacques Henric, j'ai spontanément commencé à écrire et à décrire ces scènes sexuelles exactement comme si j'étais en face de tableaux et chargée de, pour quelqu'un qui ne les a pas sous les yeux, de les décrire en fait. Voilà, c'est. Et puis il y avait quand même aussi la nécessité, ça j'en étais consciente, de pas décourager le lecteur. C'est-à-dire que si j'avais eu un style où j'aurais beaucoup plus mis de je sais pas, de sentiments, de pathos, de sensations plus, ça aurait pu faire écran entre le lecteur et moi, sur un sujet qui est quand même un sujet où là, vraiment chacun je le répète, sa propre sensibilité. Donc, voilà. Et puis finalement, c'est... Je crois que je suis une grande... ça aussi, j'en ai déjà parlé. Je crois que je suis beaucoup plus une spectatrice qu'une actrice, en fait. Même si j'agis, même si je travaille, que je m'occupe de ce journal depuis très longtemps maintenant, mais je suis d'abord une spectatrice. Donc je suis d'abord spectatrice aussi spectatrice de moi-même, comme ça. Donc si je puis dire les choses, j'ai moi-même toujours sous les yeux, comme ça, à observer, à m'observer dans les situations, dans les rapports avec les autres, etc. Donc je suis dans une... Étant observatrice, je suis descriptive.
André m'a baisé le premier assez longuement et tranquillement, comme c'était sa manière. Puis il s'est interrompu brusquement. Une ineffable inquiétude m'a gagné, juste le temps de le voir s'éloigner, marchant lentement, les reins creusés vers l'autre fille. Ringo est venu le remplacer sur moi, tandis que le troisième garçon, qui était plus réservé et qui parlait moins que les autres, accoudé près de nous, passait sa main libre sur le haut de mon corps. Le corps de Ringo était très différent de celui d'André, et je l'aimais mieux. Il était plus grand, plus nerveux, et Ringo était de ceux qui détachent le travail du bassin du restant du corps, qui martèlent sans couvrir le torse dressé sur les bras. Mais à mes yeux, André apparaissait comme un homme plus mûr, sa chair était un peu plus molle et ses cheveux déjà un peu moins fournis, et je trouvais agréable de m'endormir lové contre lui, les fesses sur son ventre, lui disant que j'avais juste les bonnes proportions pour ça. Ringo s'est retiré et celui qui regardait en me caressant a pris son tour, alors que je retenais depuis un certain temps une terrible envie d'uriner. Il a fallu que j'y aille.
Bah écoutez, merci d'avoir lu à ma place. Hein.
Vous aimez pas trop le lire en...
Je lis jamais. Non. Je vous remercie de m'avoir posé la question tout à l'heure, de savoir si je préférais que vous lisiez ou plutôt moi, parce que en fait, si on me demande de lire ce livre-là en général, enfin, j'ai toujours refusé. Oui, parce que quand même là, j'ai écrit ce livre j'ai écrit dans ce livre des choses que je dont je ne parle pas. Donc j'aurais trop l'impression de les parler si je devais lire, même avec le temps qui a passé, en fait.
Et qu'est-ce qui vous faisait avancer dans l'écriture ? Il y avait un désir quand même d'écrire, il fallait mener ce projet à bien très scientifiquement, très simplement. Qu'est-ce qui vous faisait avancer ?
Bon, non, l'objectif principal, c'était d'écrire un livre qui raconterait de la manière la plus exacte, la plus précise, ce qu'était la vie sexuelle d'une femme à l'époque qui a été la nôtre, j'allais dire qui est la nôtre. Je pense que c'est plus tout à fait pareil déjà maintenant, mais non, c'était ça. C'était de l'ordre du témoignage. C'était vraiment de l'ordre du témoignage. Quand Quand j'avais commencé à parler vaguement de ce projet, aussi bien Jacques-Henri que Denis Roche me disaient, mais oui, c'est vas-y, fais-le, ce livre, parce que autant on a des témoignages d'hommes sur leur sexualité, autant sur les femmes, il y a pas grand-chose, surtout sous cette forme-là, très très réaliste quand même. Bon, donc c'était ça l'objectif.
Et vous décrivez avec autant d'application une, comment vous dites, une partie fine, non, une partouze, quoi, que une toile de Casimir Malevitch, quoi, carré blanc sur fond blanc.
Oui,
vous êtes dans quelque chose.
oui, enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, j'ai envie de dire, je suis presque moins rigoureuse pour décrire le Malevitch que pour décrire la partouze, parce que le Malevitch, si je commence à être rigoureuse, ça va être vraiment très très ennuyeux. Donc non, voilà, il y a quand même des différences.
Et dans les années 70, quand vous vivez ces moments-là, et au-delà des années 70, mais c'est vrai que c'est à la fois une époque très particulière, un milieu aussi oui. particulier, mais est-ce qu'à l'époque, déjà, à chacune de ces expériences, est-ce que vous mettez tout de suite des mots, est-ce que tout de suite dans votre tête vous cherchez à décrire et d'abord
tout.
À vous-même en
non,
utilisant
non,
les mots
non,
les plus précis?
Non, pas du tout. Non, je quand j'ai vécu beaucoup des faits qui sont rapportés dans ce livre, non, j'avais pas du tout l'idée qu'un jour j'en ferais un livre. Mais c'est vrai que à cause de ce don d'observation comme ça que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais gardé des souvenirs très très précis. Et puis quand je me suis mise au travail, j'ai quand même vérifié mes sources, si je puis dire. J'ai travaillé comme un historien d'art. C'est-à-dire que j'ai rencontré des amis qui avaient partagé ces événements avec moi, et j'ai vérifié, quoi. J'ai vérifié parce que quand même la mémoire déforme un peu ou déplace un peu les choses. Donc j'avais la chance d'avoir gardé des bonnes relations avec beaucoup d'entre eux, un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, je pouvais les interroger. En général, ça les amusait évidemment de se rappeler tous ces souvenirs.
Je crois que vous avez dit tout à l'heure que cette première expérience du récit intime avait un peu influencé votre manière d'écrire sur l'art par la suite, et notamment quand vous publiez Dali et moi 2 ans plus tard, vous parlez du sentiment océanique de Dali. Donc, je ne sais plus qui avait théorisé le sentiment océanique de Dali, ce sentiment de ne faire qu'un avec l'univers et qui peut s'éprouver dans des moments de régression. Est-ce qu'il a à voir ce sentiment avec ce sentiment que vous avez eu, vous, dans ces moments, dans ces partouzes, de vous noyer dans une multitude?
Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Oui, alors ça, le sentiment océanique, c'est une notion qu'utilisent les psychanalystes. Hein. C'est cette sensation, et d'ailleurs qui est une sensation extrêmement agréable, que l'on peut éprouver dans certaines circonstances, où la conscience, en quelque sorte, d'être un corps séparé du reste de l'univers s'amoindrit, et en fait on éprouve comme l'impression de sortir de soi, et surtout de se fondre en fait dans l'environnement. Alors ça, oui, dans ces certaines des circonstances qui sont décrites dans La vie sexuelle, c'est quelque chose que j'ai pu éprouver, et Dali, il y a des choses comme ça aussi chez Dali, dans d'autres circonstances évidemment, mais on rencontre aussi la description de cette sensation chez Salvador Dali. Oui. Mais en fait, Dali, il a joué, enfin, ce livre déjà l'œuvre de Dali, et puis ce livre qui d'ailleurs, il faut peut-être que je le précise, portait surtout sur les écrits de Salvador Dali, pour lesquels je me suis vraiment prise de passion, et plus que sur sa peinture. Ce qui m'y intéressait surtout, c'était justement cette pulsion scopique, c'est-à-dire de tout faire passer par l'œil, tout faire passer par l'observation. Alors c'est extrêmement présent chez Dali, c'est, comment dire, surexploité chez Salvador Dali, et ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses sur moi-même qui m'ont servi après pour écrire le livre sur la jalousie,
Jour de souffrance.
qui est le deuxième livre autobiographique que j'ai publié. Et je dis toujours qu'il avait fallu que je passe par ce travail sur Salvador Dali pour comprendre le plaisir fou qu'on peut prendre à observer une scène, y compris une scène qui vous fait souffrir, donc qui vous plonge dans un état de jalousie terrible. Il fallait que je passe par cette lecture de Dali pour comprendre à quel point, oui, c'était en même temps une jouissance terrible. Voilà, cette souffrance éprouvée à observer une scène qui soulève en vous une jalousie peut être associée à un plaisir très très grand. Voilà.
L'observer ou l'écrire, cette scène ?
Non, l'observer. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que les jaloux sont des obsessionnels terribles, parce qu'ils ne cessent de chercher à reproduire, y compris de manière fantasmatique, cette scène où ils voient l'autre avec un autre ou une autre. Et cet appel qu'ils ont, ce rappel qu'ils font de cette scène, c'est parce que ça les fait jouir, c'est sûr. Les jaloux sont des grands pervers. Les jaloux sont des gens qui jouissent de ce qui les fait souffrir.
Et c'est ce que vous racontez dans Jour de souffrance, donc à l'occasion de la découverte chez votre compagnon Jacques Henrique de notes dans un journal intime de relations.
Oui, pire, il y avait des photos.
Il y avait des photos, pardon. Vous racontez la souffrance que ça vous a occasionnée. Est-ce que dans ces périodes de grande souffrance, écrire est un salut ? Ou est-ce que ça en rajoute à la souffrance ?
Alors moi, j'écris toujours après coup. Moi, il faut que l'histoire, mon histoire, soit une histoire passée. Il faut que j'ai pris justement cette distance. Il faut que là, l'observatrice soit ait vraiment pris du recul. Pour pouvoir écrire, ça m'intéresserait pas d'écrire comme une thérapie, pas du tout. Au contraire, puis j'y croirais pas. Je pense pas qu'on puisse faire. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être pas de loi non plus. Mais a priori, je me méfierais d'un écrit qui aurait servi à guérir. Ça, je pense pas que ça puisse vraiment bien marcher. Non, il faut qu'il y ait une distance. Donc j'écris toujours. Après coup, et de plus en plus après coup, parce que je suis remontée dans le temps, en fait.
On dit toujours que l'autobiographie est narcissique. Est-ce que vous, Catherine Millet, êtes de ceux qui pensent que parler de soi, c'est aussi parler des autres ? Et que le lecteur se projette dans la lecture,
oui,
de vos récits ?
Oui, il y a un peu de ce double mouvement que finalement j'évoquais tout à l'heure quand je citais le manet de bataille. Il y a ce double mouvement. Il y a bien sûr, il faut être narcissique. Déjà, il faut être narcissique, je crois, pour entreprendre n'importe quelle œuvre. Déjà, se dire là, moi, je vais fabriquer un petit machin, je vais avoir un petit produit et tout le monde devra s'y intéresser. C'est quand même une démarche assez narcissique. Puis en même temps, il y a le besoin de vérifier si justement on peut briser cette carapace comme ça du moi pour partager quand même quelque chose avec les autres. Moi, franchement, souvent c'était une pensée qui me venait. Je ne sais pas si je la formulais aussi bien que je peux le faire aujourd'hui, mais lorsque j'écrivais La vie sexuelle, je me disais bon, je vais mettre carte sur table. Et là, on va voir si les gens, et notamment les femmes, si des femmes ont eu la même expérience ou pourraient dire la même chose. Vous voyez ? Bon. Et j'étais très avide. Alors, j'avais reçu évidemment beaucoup de courriers à la suite de la publication de ce livre. Et j'étais d'une avidité terrible à lire. Parce qu'en fait, ce qui était très intéressant, c'est que jamais les gens ne me parlaient de mon livre, évidemment. Jamais on me disait, oh là là, ce que vous dites là, etc. Non, c'était, ah, vous dites quelque chose là, mais moi, je vais vous dire comment ça se passe pour moi. Et ça, c'était magnifique, j'ai adoré ça.
Bon, s'il y avait un soupçon de narcissisme dans votre démarche, il a dû être comblé, parce que vous avez vendu ce livre à combien de 1 million en France ? Je ne sais pas à combien vous évaluez les ventes aujourd'hui, mais en tout cas,
on disait en tout, avec les traductions et tout ça, c'était 2,5 millions à l'époque. Oui.
Est-ce que la réception critique de votre travail vous intéresse aussi, au-delà de celle des lecteurs qui se racontent, eux, la manière dont on juge votre travail, votre écriture ?
On aime bien lire... On aime bien lire une critique qui vous donne l'impression que son auteur vous a vraiment lu. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est même surtout en France. Je crois qu'on n'a malheureusement pas une critique littéraire très... je crois qu'on a une critique littéraire un peu paresseuse. Je constate ça, c'est que vous sortez un livre et de plus en plus, au fil des années, ce que les journalistes vous demandent, c'est des interviews. Alors, une longue interview, comme on est en train de le faire là, en ce moment, c'est intéressant, et puis aussi parce que le public va réagir tout de suite, et puis on a le temps, vous voyez, de s'étendre un peu, vous me le laissez gentiment, merci beaucoup. Bon. Donc, ça, oui, c'est une conversation, en fait, qu'on a. Mais très souvent, pour la presse, les interviews, ça se fait comme ça, vite fait, c'est toujours les mêmes questions. Enfin, les journalistes inventent pas, trouvent pas des nouvelles questions à vous poser, ils reviennent avec les mêmes, vous avez déjà répondu 25 fois la même chose, et c'est très décevant parce qu'en fait vous avez envie de leur dire à ces journalistes, mais attendez, vous l'avez lu le livre, alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous, qu'est-ce que dites-moi, et même si c'est une chose désagréable que vous avez à me dire, ça m'intéresse quand même. Bon, donc c'est assez c'est pas ça, c'est un peu décourageant. Heureusement il y a les lecteurs qui vous écrivent, ça compense un petit peu, mais je trouve Non, puis alors de temps en temps, oui, vous lisez, quelqu'un s'est donné la peine vraiment de lire le livre et même de faire des critiques. Moi, j'ai en tête des critiques qui m'ont été adressées, pas forcément à propos de la vie sexuelle, parce que la vie sexuelle, c'était un livre un peu aveuglant comme ça. Bon, mais sur les livres qui ont suivi, il y a même eu des critiques dont j'ai tenu compte après, vous voyez, parce que je respectais leur auteur et je me disais, ah bon, peut-être que là, il a raison, que j'ai un peu exagéré en faisant ceci ou cela.
Voilà. Catherine Millet, on arrive à la fin de cet entretien. Si je vous ai posé cette question aussi de la réception critique de votre travail, c'est parce que j'imagine que quand on est critique d'art, notre audience, lectorat, reste encore un peu confidentielle, mais quand on publie à des milliers d'exemplaires, voire 2,5 millions, tout de suite, la parole compte. Et on vous a demandé votre avis, notamment dernièrement, sur le mouvement MeToo. On vous a fait parler de la tribune que vous avez co-signée ou co-écrite avec une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, sur la liberté d'importuner. Vous avez parlé de votre regret de ne pas avoir été violée pour montrer qu'on peut s'en sortir, et tout ça a pris des proportions.
Oulala, oui.
Oui, mais vous avez projeté aussi quelque chose que vous avez vécu sur des situations qui aujourd'hui sans doute en sont très éloignées, et le fait que ça ait pris de telles proportions.
Non, je regrette pas. Cette histoire de tribune, d'abord j'ai pris mes responsabilités, après tout, cette tribune, je fais partie de celles qui l'ont rédigée. Et alors j'avais fait bien longtemps auparavant déjà une tribune dans Le Monde, et je sais que ça avait été ça avait dévoré mon temps. Contre ce qui s'était appelé la loi Sarkozy, c'est-à-dire cette loi qui avait éloigné des centres-villes les prostituées. Et nous, on avait pris la défense avec Catherine Robrier et Marcella Yacoub à l'époque. On avait pris la défense des prostituées. Et déjà, organiser cette première tribune, ça m'avait pris un temps terrible. Alors que, quand même, je suis par ailleurs quelqu'un qui a beaucoup de travail. Bon. Et là, quand on m'a proposé, il y a un peu plus d'un an, de participer à la rédaction de cette nouvelle tribune, pour dire les choses, j'y suis allée reculons parce que je me suis dit, mais ça va me prendre encore un temps terrible. Et donc voilà, mais après c'est sûr qu'on n'a pas mesuré l'écho énorme international qu'on a rencontré immédiatement. Et je peux vous dire que depuis donc plus d'un an, je continue à être invitée dans le monde entier pour parler à partir de, pas forcément de la tribune, mais d'exprimer mon opinion sur ce néo-féminisme qui s'est manifesté à travers le mouvement MeToo.
Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence.
C'était la masterclass de Catherine Millet avec Julie Gacon. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.